Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités, pour vous inspirer à prendre votre santé en main, tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour Aurore et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Comment vas-tu?
Ça va, écoute, on a passé le portail de l'éclipse là, et après en toute transparence, je suis aussi dans mes lunes, donc je vais répondre à l'interview de manière complètement intuitive et dans la présence de l'instant.
Parfait. Comme je te le disais en off, ça fait partie de ces interviews que j'ai pas voulu trop préparer justement pour suivre un petit peu cette intuition et le flot de nos pensées. Donc pas vraiment de thème pour cet épisode, mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Me présenter. Donc moi, je m'appelle Aurore, j'ai 34 ans, j'habite pas loin d'Annecy dans les Bauges, voilà, au milieu de la nature. J'ai une petite fille qui a bientôt un an et je suis une ancienne lyonnaise et j'ai en même temps vécu à Paris pendant 11 ans. J'ai aussi beaucoup voyagé, voilà, donc je me sens pas spécialement ancrée à un lieu, mais en tout cas, j'apprécie être dans la région pour l'instant, c'est plutôt chouette. Et sinon, sur le côté plus mission, activité, moi, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les êtres à se transformer. Alors, c'est un grand mot, mais moi, ce qui vraiment me touche, c'est d'accompagner les personnes à reconnecter avec leur joie, reconnecter avec leur authenticité, leur spontanéité, revenir aussi à la simplicité et faire la paix avec leur histoire, avec leur passé, pour vraiment retrouver plus de légèreté, de sérénité intérieure. Et voilà, et ça passe par différentes choses. Donc moi, les trois grands piliers de mon travail, c'est à la fois la voix qui se retrouve un peu dans tous mes espaces au final, la voix médecine, le chant que je pratique depuis un petit peu toujours, mais auquel je me suis vraiment reconnectée ces dernières années. En faisant ce que je fais aujourd'hui. Il y a aussi le souffle avec le breathwork chamanique, alchimique, que je pratique dans des stages et je forme. J'ai aussi un cursus sur le sujet. Et le troisième pilier, c'est les constellations. J'ouvre des constellations familiales, systémiques, archétypales, voilà, avec plein de façons de faire différentes. Et ça, c'est aussi des espaces que j'adore parce que il y a un avant et un après, c'est le travail en groupe, le travail du collectif, la guérison en groupe, c'est extraordinaire. Enfin, donc voilà, je fais aussi ça et je suis très touchée par tout ce qui est autour de la psychologie, la conscience de soi, la compréhension de nos mécanismes, de nos fonctionnements. En ce moment, je commence à m'intéresser de plus en plus à la pacification de nos traumas, l'équilibre du système nerveux, tout ça. Voilà un petit peu ce que je peux te dire en quelques mots.
C'est une sacrée mission, c'est une très très belle mission et c'est pour ça aussi, moi je te suis depuis des années et il y a peu de personnes justement qui invitent à réfléchir, à se poser autant de questions et à transformer sur autant de plans, je trouve. D'où cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tout ça a commencé pour toi? Comment tu es justement, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie? Ou est-ce que, je ne sais pas, tu as vécu des expériences qui t'ont amené jusqu'ici?
Oui, alors ça a toujours fait partie de ma vie dans le sens où je crois que depuis toute petite, je suis quand même passionnée par... j'ai mon chat qui décide de rentrer maintenant et de causer. J'ai toujours été passionnée par l'être humain, par la psychologie, par les modes de fonctionnement. Tu vois, quand je faisais mes études supérieures, je me demandais un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et au final, j'ai hésité après le bac. Je me dis, parce que j'ai fait une filière L. Moi, j'ai fait une terminale L. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire après un bac L? Et j'ai hésité, tu vois, avec faire une fac de psychologie, faire une fac voilà, en sciences sociales, tout ce qui touchait déjà un peu à l'humain. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller vers la communication parce qu'il y avait aussi un attrait pour le côté créatif. Tu vois, à l'époque, tout ce qui touchait à la publicité, créer des choses. J'adorais déjà créer des visuels. Enfin, j'ai une nature aussi très créative. Et donc, je suis partie là-dedans. Mais j'ai failli quand même me diriger déjà à la base dans un cursus qui était autour de la psychologie et tout ça. Et aujourd'hui, j'aurais même très envie de faire le cursus. Je me suis posé la question, mais j'ai décidé de pas le faire parce que c'est trop long, trop engageant, et avec tout le bagage que j'ai maintenant, je pense qu'il y aurait trop de redites, mais j'avais presque envie de le faire, tu vois. Après, le côté ésotérique, un peu ouvert, il était aussi là. Je tirais les cartes dans ma chambre quand j'étais petite. Je savais pas trop ce que je faisais, mais je m'amusais. J'ai une maman qui a toujours été, mine de rien, très consciente et connectée sans trop me le dire. Je l'ai un peu découvert quand moi, j'ai réouvert les portes. Et voilà, j'étais déjà un peu très rêveuse dans mon monde, très touchée par les mondes fantastiques. Je pense que j'avais déjà un peu tout ça, quoi.
Ok, génial. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que moi aussi j'hésitais à faire psycho. Et je sais pas, la vie nous rattrape et nous dit non. En tout cas, moi c'était peut-être aussi la société ou les personnes autour de moi qui nous disaient non, il faut un cursus un petit peu plus sérieux, entre guillemets. Mais c'est vrai que la psychologie, ça m'a toujours énormément intéressée et du coup j'y reviens aujourd'hui dans mes accompagnements. Est-ce que justement, alors. Tu nous as parlé de plein de choses, de plein d'outils que tu utilises. Quel est le premier que tu as découvert entre le souffle, entre les constellations, entre le chant? Voilà. Quel est le premier qui est venu à toi? Et quels sont les bénéfices que tu en tires aujourd'hui, toi, au bien-être personnel?
Alors c'est assez difficile d'établir une chronologie. Pour les personnes qui sont intéressées, j'ai écrit un livre où je raconte un peu mon parcours de transformation. Alors, je sais plus si on va le trouver dans beaucoup d'endroits parce qu'ils ont un peu arrêté de le vendre, voilà, les durs lois de l'édition. Moi, j'ai encore tout un stock chez moi, si ça intéresse certaines personnes. Et en fait, tout a été quand même assez très condensé en l'espace de 3 ans. J'ai fait une grosse boulimie de voyages, de formations, de cursus, d'exploration. Donc ce sera assez dur de la chronologie, mais je pense que ce qui est venu à moi, ça a d'abord été la voix. Je me suis formée en yoga de la voix pour apprendre à reconnecter déjà avec la puissance, le souffle, le soutien, le placement. J'ai fait des stages à Paris avec Denis Fargeot, c'était super. Et puis un jour, j'ai mon amie Anne-Claire Méret, que peut-être tu connais, qui m'a envoyé le lien d'une retraite au Népal pour aller chanter des mantras avec un prof de chant indien. Je connaissais ni le prof, j'étais jamais allée au Népal, je venais déjà de booker mon voyage pour le Pérou pour aller faire une retraite, et en fait elle m'a envoyé la page, et en l'espace d'1 heure j'avais booké la retraite, les billets d'avion. C'était une fulgurance. Et ça a aussi été une grande porte pour moi parce que bah, ça m'a permis de me reconnecter avec à nouveau ma capacité à chanter, à déployer ma voix, à prendre ma place aussi, parce qu'on était dans un groupe d'internationaux et moi j'étais la petite Frenchie. Et voilà, j'ai commencé à être reconnue en tout cas dans ma capacité à quand même porter ma voix. Et après ça s'est enchaîné, l'Amazonie, j'ai aussi connecté avec ma voix de manière différente. Je me suis formée encore à d'autres choses derrière. Et la voix, en tout cas, a pris de plus en plus de place parce que je me suis rendu compte que, bah, surtout quand je suis allée en Amazonie faire une retraite avec les plantes, que ce qui m'a touchée le plus au-delà de la plante médecine et tout ça, c'était les chants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a besoin de rien pour tenir des espaces si la voix, elle devient médecine, si elle est capable de porter quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est comme les cérémonies cacao, maintenant c'est à la mode, voilà. On a un peu le même avis d'ailleurs avec Natalia, mon amie prof de chant avec qui on fait un cursus sur la voix cette année pour les femmes. Et on s'est dit, voilà, nous on a envie de porter ce message que t'as besoin de rien en fait. Et la voix se suffit à elle-même, et on est des transmetteurs naturels de médecine à travers notre vibration. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a touché le plus, et ce qui m'a ensuite ouvert des portes pour me déployer de plus en plus dans mes espaces parce que quand je fais du breathwork et que j'accompagne les gens, souvent il y a des énormes shifts pendant la pratique au moment où je vais chanter près d'eux. Et les constellations, c'est la même chose. Je passe beaucoup par le corps, je fais un travail très incarné. Et parfois, il suffit de d'amener un chant pour que, pareil, pouf, il y ait quelque chose qui lâche, une colère qui sorte, le pardon qui s'opère. Et donc, ouais, je pense que la voix, ça a vraiment été la première étape. Et ensuite, le reste a suivi. Les constellations, ça s'est mis aussi sur mon chemin parce que j'ai beaucoup co-animé avec des amis avec qui j'ai co-créé des retraites. J'ai fait un peu des stages à droite à gauche et du coup j'ai créé ma propre médecine en m'inspirant de ce que j'ai pu vivre, quoi.
Ok, c'est génial. Je bois tes paroles. Est-ce que justement tout ça, tu allais les chercher? Est-ce que tu avais besoin de guérir quelque chose ou de transcender quelque chose? C'était vraiment quelque chose qui t'appelait au fond de toi? Ou c'était plutôt de la simple curiosité où tu t'es dit, bah, ça m'appelle, je vais voir ce que ça m'apporte? Ou il y avait vraiment des réponses derrière que tu voulais?
Le tout début du chemin, ça a été un appel de guérison parce que pour dire quelques mots sur mon histoire, moi à la base, donc je faisais de la com. Et en fait, une semaine après les attentats du Bataclan à Paris, je me suis retrouvée avec une très très forte douleur dans le bras qui s'est accentuée. Et donc, on m'a diagnostiqué un syndrome, le syndrome de personnage Turner. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, les neurologues y connaissent bien. Et c'est rigolo parce que c'est un syndrome d'origine inconnue. Donc on ne sait pas pourquoi ça vient, c'est très mystérieux. Et ça a été très 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 dur parce que pendant un an, kiné, antidouleur, tramadol, j'étais shootée aux médicaments, je pouvais même plus laver une poêle, hein, faire ma vaisselle. Et donc du coup, bah, ça m'a mis un gros stop. J'étais déjà un peu pas très bien dans ma vie à l'époque, je me cherchais. Mais je pense que là, ça m'a vraiment ouvert une porte pour bah, aller à la rencontre de moi-même, me dire ok, bon bah là. Tu fais un arrêt sur image, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est là où j'ai ressorti tous les livres que ma mère m'avait gentiment glissés sur mes étagères autour des huiles essentielles, voilà, les médecines naturelles. Elle était déjà un petit peu sensible à ça. Et puis en cherchant des réponses, je suis tombée sur un article sur la naturopathie. Je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, je vais me former. Je me suis inscrite dans une école sur 3 ans. Au final, je me suis arrêtée en plein milieu parce que dès que j'ai commencé à faire les cours, ce qui me passionnait, c'était la psychologie et c'était d'entendre les mots derrière les mots. Et le premier stage avec des patients volontaires, c'est ce qui s'est passé. C'est quand on faisait les séances. Les anamnèses et les faux entretiens, enfin c'était pas vraiment faux, c'était voilà avec les patients volontaires. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était mais en fait pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est quoi la relation avec vos parents? Enfin tu vois, c'est tout de suite j'avais envie de partir là-dedans. Ça m'intéressait pas forcément de. Oui, je t'entends, Isis. Ça m'intéressait pas forcément. De conseiller des compléments alimentaires, de parler d'alimentation, c'était pas forcément mon truc. Même si ça m'a aussi beaucoup aidé à me reconnecter avec mon corps et comprendre bah, qu'est-ce qui est sain et bon pour moi. Je pense que ça je l'ai surtout pris moi personnellement, pour moi, la naturo. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a ouvert plein de portes. Je suis allée voir des conférences, je suis allée voir des médiums. Je crois que j'ai testé toutes les thérapies que je pouvais. Et puis dès que quelque chose m'appelait, je me disais, ah, ça, je sens que ça vibre, je me forme à ça ou je vais tester ça. Donc j'ai jamais trop eu une réflexion intellectuelle en me disant, tiens, je fais ce choix pour tel et tel argument. Je l'ai pas fait non plus en me disant, je vais faire ça pour être légitime ou je sais pas quoi. J'ai vraiment suivi à chaque fois les élans de mon cœur. Et puis quand il y a une porte qui s'ouvrait, ça en ouvrait d'autres. Et j'essayais de naviguer au milieu de ça et je me suis. Ouais, je me suis laissée porter vers ce que la vie m'offrait. Et puis plus tu testes des choses et plus tu te rends compte de ce qui te correspond vraiment. Moi, avec le temps, j'ai vraiment vu que la voix, c'était ma voix. Et voilà, tout ce qui touche autour de ce que je fais maintenant. Puis quand tu es à ton compte, tu vois ce qui fonctionne pas. Il y a tout le temps des remises en question. Tout ça a été aussi très enseignant pour moi.
C'est fou comme je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi aussi c'est ce côté vraiment psycho-émotionnel qui m'intéresse. Alors je pense que C'est chacun par rapport à son histoire de vie. Et le dernier interview que j'ai fait, justement, la personne était très terre à terre, où elle était formée à la micronutrition, etc., parce que ça ne faisait pas partie de son histoire. Mais du coup, c'est très chouette de voir comme chacun est appelé par d'autres choses, et c'est le merveilleux monde des thérapeutes. Donc, enfin voilà, un univers qui me conquit à chaque fois. Aujourd'hui, est-ce que tu pratiques encore la naturopathie? Plus du tout. Tu n'as quasiment pas utilisé du coup.
Non, j'ai jamais pratiqué. J'ai fait quelques séances pour m'entraîner au tout début ou voilà, de façon un peu bénévole. Mais non, non, moi j'ai jamais posé la plaque naturo sur ce que je faisais.
T'es tout de suite partie dans les accompagnements, dans les séjours, dans vivre les expériences.
Ouais. Moi, je suis. Les premières choses que j'ai faites, c'était ouvrir des cercles de femmes.
Ok.
J'ai été initiée à ça. Donc ça, vraiment, ça a été la première porte pour moi. Et puis après, j'ai rajouté des outils et puis j'ai commencé à faire évoluer mes ateliers, mes stages. J'ai eu une époque où je proposais des week-ends chamaniques, donc sur tout un week-end, je faisais explorer le breathwork, le tambour, la danse, le chant. Voilà, on faisait plein de choses différentes et j'ai toujours été quand même plus portée par l'aspect expérientiel que le côté intellectuel. Ça a vite tendance à me prendre la tête. Beaucoup de mal à rester sur un sujet à la fois. Tu vois, j'ai tout le temps 5 livres sur ma table. Donc là, en ce moment, mon travail du moment, c'est lire un livre à la fois et aller jusqu'au bout. Parce que j'ai tendance à tout prendre en diagonale. Même parfois, quand je commence un podcast, j'ai la sensation de, si vraiment je suis pas en train de découvrir quelque chose de profond, je vais très vite m'ennuyer, je vais avoir besoin de passer à autre chose. Je pense que c'est le côté un peu multipotentiel, j'en sais rien. Et du coup, voilà, moi, mon cheval de bataille, c'est d'arriver à approfondir et à vraiment rester sur un truc, parce que j'ai tendance à vouloir faire plein de choses en même temps.
Partir dans tous les sens et c'est bien. Moi j'aime bien, je suis aussi comme ça et c'est vrai que voilà, au moins on s'ennuie jamais. On touche un petit peu à tout et au moins c'est une vie palpitante.
Oui, c'est sûr. Mais après, ça peut être difficile d'arriver à vraiment s'incarner et être en sécurité dans sa zone de génie. Parce que moi, j'ai quand même exploré plein de trucs et je sens que ça m'a, qu'aujourd'hui, je suis dans une forme de tranquillité et je me sens vraiment bien parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais, ce que je dois faire. Je me pose pas 8 000 questions tous les jours, tu vois, sur comment je dois faire évoluer mon activité. Je sais quelle est ma place et je le fais et voilà. Et puis si ça doit évoluer, ça évoluera. Mais pour l'instant, je me pose plus de questions, en tout cas.
Oui, parce que tu as du coup toute l'expérience, que tu as expérimenté déjà plein de choses, contrairement à moi qui suis à mon début d'activité où je me pose 10 000 questions de savoir comment, qu'est-ce qui va être le mieux. Donc chacun finalement encore une fois son chemin, mais c'est vrai que j'ai hâte aussi d'avoir un petit peu ce truc de me dire, mais en fait c'est là que je veux aller, parce que je sens que des fois je vais un petit peu aussi dans tous les sens, mais ça fait, je pense aussi partie du chemin. Je pense que si on ne passe pas par toutes ces étapes, bah on ne sait pas exactement quel chemin on doit prendre. Et j'adore ce mot d'expérimenter les choses, parce que sans expérience, en fait, on ne sait pas. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je dirais très souvent dans mes podcasts. Testez. Vous êtes les seuls à savoir si ça vous correspond ou pas, finalement.
Oui, c'est sûr. Et puis de observer aussi le curseur de la joie. Parce que moi, je le dis toujours, tu fais d'abord les choses pour toi. Et il faut kiffer, faut être en joie, en fait, dans ce qu'on fait. Moi, dans tous mes espaces, que ce soit la voix, les constels ou le breathwork, je suis touchée par la grâce à chaque fois. J'ai les larmes aux yeux tellement je trouve ça beau, tellement ça me met en joie de faire ça. Et c'est ça qui me permet de sentir que c'est vraiment juste si on fait quelque chose et où on touche pas à ça, en tout cas dans nos métiers et dans ces espaces d'entrepreneuriat, parce que je dis pas, hein, parfois quand on est au travail, voilà, je fais ma compta, bon, je vais pas toucher des espaces d'extase, hein, il y a aussi des trucs qu'on doit faire parfois, mais en tout cas qu'on arrive quand même à connecter à ça, je pense que c'est le plus important et c'est ce qui nous montre qu'on est à notre place.
Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'en début d'activité, je ne sais pas si tu avais aussi cette joie. Je trouve que c'est quand même difficile de toujours se connecter à sa joie quand on est au début, quand on tâtonne, quand on voit ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve qu'il y a des personnes qui arrivent beaucoup plus facilement à se connecter à leur intuition et à suivre justement, c'est là que je veux aller, c'est là que je dois aller, entre guillemets. Voilà, je trouve que c'est plus facile. pour d'autres. Alors peut-être qu'on est plus ou moins connectés, hein, mais.
Selon moi, ce qui fait la différence, c'est la pression qu'on se met et c'est tout ce qu'il y a derrière et la notion de sécurité. En fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que moi, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu le chômage pendant 2 ans.
Oui.
Donc pendant 2 ans, eh ben tout ce que je faisais, ça venait d'un espace de kiff et j'avais zéro pression. Enfin zéro, on va pas se mentir, c'est faux, mais que tout de suite, moi, dès que je me suis mise en arrêt, enfin que j'ai arrêté de travailler. Tout de suite, je me suis dit, OK, je vais ouvrir mon blog, j'ai écrit des e-books, j'ai écrit des livres, je vais faire des stages, des ateliers. Je me suis mise en mode à fond la caisse, alors que j'avais quand même ce filet de sécurité derrière. Et je pense que ça m'a quand même aidé à créer depuis un espace de kiff et d'intuition où je me disais pas, OK, il faut que je fasse ça pour gagner de l'argent. Et donc, ça a déjà impulsé un premier mouvement. Et après, bien sûr qu'il y en a eu des moments où je me prenais la tête par rapport à tout ça, à me dire, oh, faut que ça fonctionne financièrement. Mais j'ai eu en tout cas cette capacité à chaque fois à revenir à mon pourquoi je fais ça. Et je dis toujours aux personnes que j'accompagnais avant dans l'entrepreneuriat, je dis, si tu sens qu'il y a trop de pression et trop de contraction à l'intérieur de toi et que ça t'empêche de faire ce qui te met en joie, eh ben fais autre chose. Trouve un autre moyen. Pendant un certain temps pour remettre un peu d'argent de côté ou j'en sais rien. Moi, j'ai aussi fait des emprunts. Enfin, voilà, j'ai pris des décisions pour payer mes écoles, pour payer plein de choses. Et parce qu'on peut, pour moi, on peut pas œuvrer depuis un espace d'insécurité, c'est pas possible. Donc, c'est le premier truc à pouvoir se mettre au service des autres. Faut d'abord se mettre au service de soi. Alors, c'est un vaste. Une vaste phrase hein, de dire ça, mais c'est hyper important et c'est aussi pour ça que je suis en train de vouloir creuser le sujet du trauma et du système nerveux parce qu'en fait on est tous des traumatisés de la vie à différents niveaux, qu'on a tous un système nerveux grillé. Moi, laisse tomber, je suis sur un parking et quelqu'un qui klaxonne, je vais sursauter.
Oui.
Donc on peut pas œuvrer depuis un espace qui est autant en surcharge. Donc c'est hyper important qu'on apprenne tous déjà à désamorcer, à dégoupiller nos systèmes pour qu'ensuite on puisse diffuser plus de paix et de tranquillité autour de nous. Ça passe d'abord par soi, quoi.
Mais ça, c'est un très vaste sujet, je pense. Et on va peut-être pas s'étaler dessus, mais moi, je pense que c'est aussi toute la société dans laquelle on vit, hein, qui favorise pas justement cette ambiance très sereine, que tout aille bien. On vit quand même un petit peu dans la peur, dans le stress permanent. Et il n'y a pas grand-chose qui est fait aujourd'hui pour qu'on soit justement zen et on se connecte un petit peu à ce qui nous fait plaisir et ce qui nous met en joie. Mais
Il y en a de plus en plus, mais c'est le début.
voilà, c'est le début. Quand on est un petit peu connecté et qu'on veut aller vers ce chemin, on peut, tu en es la preuve. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas encore le chemin classique que tout le monde s'autorise, en tout cas, à prendre.
Exact.
Est-ce que tu pourrais nous parler dans un premier temps du breathwork? Parce que du coup, c'est le, je l'ai expérimenté avec toi. Et alors, j'en avais énormément entendu parler, on m'avait dit que du bien. J'ai mis un petit peu de temps à venir parce que tu vois, moi, je suis une ancienne ingénieure, j'étais très cartésienne, et du coup, ce milieu m'appelait énormément. Et d'un côté, il me faisait un petit peu peur. Je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller creuser dans tout ça? Parce que je savais qu'il y avait plein de choses qui pouvaient potentiellement ressortir. Et je suis ressortie de là, mais enfin, c'était magique. Honnêtement, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi fort. Alors, je pense qu'il faut que j'en refasse pour vraiment aller en profondeur dans tout ça. Mais c'était vraiment une des expériences les plus transformatrices que j'ai vécues. Donc, est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de tout cet univers?
Ouais, alors j'ai envie de te dire déjà que t'as eu peur et que t'as mis un temps à y venir, tant mieux. Parce que on doit sentir quand c'est le moment et la crainte de l'inconnu, c'est aussi notre garde-fou et c'est hyper important. Donc tant mieux que voilà que t'as aussi eu ce mode de fonctionnement-là. Moi, le breathwork, c'est venu à moi. J'étais à Bali, tout le monde en parlait aussi. Ouais, c'est génial, il faut que tu testes. Et pareil, je flippais, je me suis dit, oulala, là là, mais c'est quoi ce truc? Parce que je savais que quand j'allais y aller, ça allait être intense. Ça a pas loupé. Moi, pendant 1 heure, je me suis branchée sur ma force vitale, j'avais l'impression que j'étais un serpent, enfin, c'était complètement fou. J'ai mis 1 heure à redescendre, après j'étais au resto devant ma soupe comme un zombie. Et c'était très drôle. Et c'est là que d'ailleurs j'ai senti l'appel du serpent, de la liane, et que j'ai décidé de m'inscrire pour aller au Pérou. C'était une petite parenthèse. Et ça a tellement été extraordinaire pour moi de me reconnecter à mon corps, à ma présence, à ma puissance intérieure, ma force intérieure qui, moi, avait beaucoup d'insécurité et qui était très déconnectée de mon corps. Que je me suis dit, il faut absolument que je creuse ça, que je me forme et que je transmette ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et le breathwork, effectivement, alors après, il y a plein d'approches différentes du breathwork. Tu vois, il y a le soma, il y a la respiration holotropique, il y a le rebirth. Tout le monde a un peu créé son propre truc, hein, voilà, comme toutes les techniques. Moi, j'ai créé ce qu'on appelle le breathwork alchimique, dans le sens où j'allie vraiment la notion de cérémonie chamanique, des concepts chamaniques. Il y a des instruments dans l'espace, il y a la voix, donc je chante. Il y a aussi l'accompagnement par le toucher, mais c'est un accompagnement assez doux et pas trop intrusif, qui parfois peut l'être beaucoup plus. En tout cas, le breathwork un peu New Age qu'on pouvait voir avant, c'était vraiment, on te pousse un peu à aller chercher tes traumas et sortir ta colère et crier et pleurer et machin. Je suis pas trop dans une démarche comme ça. Moi, je suis plus à créer un espace sécurisant où je vais éventuellement, voilà, venir appuyer sur des petits boutons pour que les personnes puissent se connecter à leur propre capacité de guérison et de libération. Mais je suis pas dans l'attente qu'il se passe quoi que ce soit. Et même, c'est important de le poser que, voilà, ces espaces, c'est pas, faut arrêter de chercher l'extraordinaire tout le temps, l'intensité tout le temps. Ça peut être aussi des espaces où on va se connecter à beaucoup de douceur, où on va avoir des prises de conscience, vraiment chouette, sans que ça passe par de la douleur. On peut aussi vivre des grands moments d'extase, des grands moments de joie. Enfin, c'est super. Et oui, aussi, parfois, bah, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a des choses un peu plus intenses qui sont présentes, mais ça va vraiment dépendre de chacun, en fait. Voilà. Et c'est ce qui me touche, en tout cas, dans cette pratique-là, c'est que chacun se réapproprie sa propre capacité alchimique à transformer en passant par son corps. Et on débranche un peu le mental parce qu'on change de fréquence au niveau du cerveau quand on fait ça. Et ouais, c'est magique, comme tu dis.
Ouais, c'est beau. Et je pense que rien que le fait d'y aller, c'est déjà transformateur. Je pense que de s'autoriser aussi à juste aller dans cet espace, à découvrir aussi cet univers, déjà, je pense que la démarche transforme déjà. Après, on aura tous des choses différentes, comme tu l'as dit. Ça peut être très transformateur, ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère, peu importe. Mais au moins, rien que le fait de l'expérimenter. Je pense qu'on a déjà plein de clés qui arrivent à nous.
Ouais, et puis de se reconnecter à son souffle, à son corps. On respire mal tout le temps, on est tout le temps dans notre tête. Donc rien que de prendre le temps de respirer sur un tapis pendant 1 heure et demie, c'est déjà énorme pour certaines personnes. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, quand on n'en est pas tous au même endroit, au même moment. Et puis il y a aussi un facteur, c'est la première fois. Tu vas jamais vivre la même expérience quand c'est ta première fois que quand tu commences à avoir l'habitude. La première fois, il y a ton mental, il y a ton ego qui est là, attends, c'est quoi ce truc? Il faut quand même que je reste en sécurité, il faut que je garde le contrôle. Donc il y a des personnes parfois qui viennent me voir, qui me disent, ouais, je suis déçue, j'ai l'impression que j'étais trop dans le contrôle, qu'il s'est pas passé grand-chose. En fait, c'est normal. Et tant mieux, encore une fois, c'est ce qui nous maintient en sécurité. Mais après, bah, c'est de s'autoriser à venir revivre l'expérience et encore et encore. Moi, je vois bien mes élèves, ils font 7 respirations pendant 7 mois. C'est jamais la même chose. Ça évolue complètement entre la première et la dernière fois. Après, on y va beaucoup plus sereinement. Il se passe encore plus de choses. On lâche prise. Et c'est ça qui est beau aussi.
Ouais, et pour être tout à fait honnête avec toi, quand tu as annoncé justement, quand on a fait le breathwork, tu as dit on va respirer pendant 1 heure et demie. J'étais 1 heure et demie, mais ça va être super long. Et je me suis dit justement, ne te concentre pas sur le temps, Margot. Ça va passer très vite. Mais c'est vrai que je me suis dit 1 heure et demie, c'est très long. Et à la fin, je me suis dit déjà. Parce que justement, tu m'as aussi permis pendant ce... Alors, certes, moitié, je pense que j'étais aussi beaucoup dans le mental, mais ça fait partie de mes... Enfin, ça fait partie de moi, je suis dans le mental et j'ai quand même réussi à décrocher un petit peu, mais je suis restée aussi beaucoup dans mon mental. Mais ça m'a aussi permis de me reconnecter au chant et aux instruments. Quand je suis sortie, je me suis dit, mais le pouvoir, rien que de la musique, rien que des instruments derrière et d'entendre chanter, je me suis dit, mais rien que ça. Même quand on veut être chez soi, quand on n'est pas forcément très bien ou peu importe, mettre de la musique, eh ben ça peut complètement changer ta journée ou ton mood du moment.
La musique, c'est de la médecine.
Ouais, ah ben complètement et on le voit bien, alors même si c'est pas du tout les mêmes sphères, mais c'est quand même les émissions de musique, c'est aussi ce qui dure le plus parce que les gens se sentent connectés à ce son et il y a quand même quelque chose vraiment de fort autour de la musique, qu'elle soit chamanique ou pas. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des constellations? Parce que pour le coup, j'en ai entendu parler. J'en ai jamais fait parce que je ne sais pas trop ce qui se cache derrière tout ça.
Ah bah va falloir venir en faire.
Mais...
J'en ai demain et après-demain en plus. Là, j'enchaîne sur un week-end. Bon, il est archi complet, mais tu pourras venir au prochain. Et les constellations, alors c'est toujours difficile à décrire tant qu'on l'a pas vécu. Et c'est vrai que j'aime bien aussi laisser une forme de mystère et de découverte autour de ça, mais... En gros, la constellation, c'est un espace. Bon, déjà, c'est une forme de thérapie collective. C'est-à-dire qu'on vient, on est dans un groupe, on accepte de se livrer, il y a une forme d'intimité qui se crée, on va vraiment vivre une expérience pendant 2 heures, une après-midi, une journée, un week-end. Donc, moi, j'anime des week-ends. C'est intense. Et en même temps, je trouve que comme ça permet vraiment d'aller en profondeur sur le travail. Donc moi, c'est ma façon en tout cas de voir les choses. Il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres temporalités. Et la constellation, c'est un espace vivant qui te permet de... Donc si toi, tu fais ta constellation, ça te permet en fait d'aller te relier à ce qui se passe dans ton inconscient, dans ton système, dans... ton arbre généalogique, enfin, en tout cas, tout est relié au final, parce que ton système familial, ton arbre, tes archétypes intérieurs, tout se trouve dans ton inconscient, et c'est ce qui fait que on va agir de telle ou telle manière, parce qu'au final, la façon dont on vit au quotidien, c'est 90 ou 95% guidé par notre inconscient. Donc c'est quand même pas rien. Et donc la constellation, ça permet de mettre en action, de voir de manière incarnée, de manière vivante, ce qui se joue dans l'inconscient. Et donc la personne qui va consteller, moi ça fonctionne sur tirage au sort, parce que j'ai foi que la vie c'est toujours qui doit consteller et à quel moment. Surtout que je fais une parenthèse, mais au final, c'est pas plus puissant de faire sa constellation que d'être dans une constellation, parce qu'on est tous un, et crois-moi que la phrase "nous sommes tous un" prend vraiment son sens dans des constels, parce qu'on a tous des résonances dans nos histoires, il y a toujours des sujets qui vont nous toucher, si on incarne un personnage ou un archétype, c'est pas pour rien. Donc voilà, en tout cas, on fait toujours le job, même quand tu observes, tu es traversé par le truc, c'est extraordinaire. Et donc la personne qui constelle, elle va dire, bah voilà, moi je voudrais traiter tel ou tel sujet, par exemple, j'arrive pas à prendre ma place depuis des années, ou alors j'arrive pas à trouver un compagnon durable, j'ai tel symptôme physique depuis des années, j'arrive pas à m'en sortir, je me sens paumée dans ma vie professionnelle, enfin ça peut être plein 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 de problématiques différentes et voilà, très très variées. Et donc moi j'ai un bref échange avec la personne en direct. Et ensuite, basé sur ce qu'elle me dit, bah, je vais faire une proposition en disant, voilà, si tu veux, on va placer dans l'espace ton archétype intérieur, ton cœur, ton âme, ton ego, ton enfant intérieur. Donc ça, c'est plus des archétypes qui sont à l'intérieur de nous. Et ensuite, si je vois que c'est pertinent, je vais dire, on peut aussi poser ta mère, ton père. Ton grand-père, voilà. Et ça peut être des figures aussi archétypales plus vastes, c'est-à-dire on peut poser la maternité, le sacrifice, la liberté, le juge, la loi. Et voilà. Et donc, on va mettre dans un premier temps tout ça dans le système. Donc, c'est des personnes qui représentent ces archétypes et ces personnes. Et ensuite, bah, il y a toute une mise en mouvement qui se passe et on voit comment ça danse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bah, les personnes qui incarnent les personnages et les archétypes ne connaissent pas le Constellant, hein, en général. Et c'est toujours très, très, très bluffant. On met le doigt sur des secrets de famille, on met le doigt sur ce qui se joue à l'intérieur des personnes, qui n'en avaient pas conscience. Et mon intention, moi, c'est de venir restaurer, en fait, de venir restaurer au niveau cellulaire ben, l'histoire qui se joue dans l'inconscient pour venir pacifier et remettre de la circulation, remettre du mouvement et d'aller vers une résolution, vers une pacification intérieure. Et c'est ça qui est magique.
Ok, donc c'est un peu une interrogation qu'on a. En fait, c'est une thérapie de groupe. On a une interrogation et en fait, avec le groupe, le collectif, on arrive à apporter des réponses.
Bah, au-delà de la thérapie et du mot réponse, ce qui est quand même très présent en tout cas dans les espaces et dans la façon dont je fonctionne, c'est que moi, c'est très incarné. Donc, tu pourras pas, par exemple, t'adresser à un archétype ou à un membre de ta famille avec ta tête. Tu es obligé de passer par le corps, faut que ça descende dans ton cœur. Et c'est là où moi, j'accompagne, en fait, parfois avec la voix, avec des chants, avec le tambour, avec la respiration, avec la visualisation. C'est une pratique qui est incarnée et ce qui se joue dans l'espace ne ment pas. Donc, tu vois, si tu dis à un parent, par exemple, oui, c'est bon, je te pardonne, mais qu'en fait, tu le vis pas vraiment à l'intérieur de toi, ça va se percevoir dans ta constellation. Et donc, c'est ça que j'aime avec l'espace vivant de la constellation, c'est qu'on peut pas mentir. On peut pas se voiler la face, on peut pas prendre des raccourcis. On est obligé, en fait, de faire le travail en profondeur et c'est ça qui est très, très pertinent.
Ah, génial. Donc, je viendrai. J'ai vraiment aussi envie d'expérimenter tout ça sur mon chemin aussi qui est, voilà, je m'ouvre de plus en plus à ça, donc ça donne envie. La dernière question que je voulais te poser, et c'est une question que je me suis posée dès le début quand j'ai voulu faire cette interview, est-ce qu'on peut te qualifier de chamane ou de guérisseuse?
Alors non. Non, parce que pour moi, les chamans, c'est des êtres qui dévouent leur vie à accompagner les autres, à être au service du subtil. Souvent, c'est aussi des personnes qui sont choisies dans leur lignée, par leurs ancêtres, dans leur village, par leur tribu. Qui ont reçu souvent des initiations aussi pendant des longues années. Tu vois, les chamans, ils vont faire des diètes dans la jungle pendant des années, ils passent par des processus initiatiques hyper intenses. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à s'approprier le truc en un claquement de doigts. J'ai acheté un tambour, je sais faire trois chants médecine et ça y est, je suis un chaman. Donc, pour moi, non, pas du tout. Donc, je dirais plus que je suis praticienne chamanique. Voilà, j'utilise des outils emprunts du chamanisme et de toutes ces traditions-là dans mes espaces de travail, mais voilà, à aucun moment je me dis chamane et guérisseuse non plus. J'aime pas trop ce terme parce que pour moi personne guérit personne, c'est-à-dire que nous on est des facilitateurs de guérison. On va tenir la main à la personne qui va elle-même se guérir, et donc j'aime pas du tout le mot guérisseur. Parce que, voilà, encore une fois, pour moi, on n'est pas là pour guérir les autres. C'est chacun qui se guérit soi-même. Ça passe d'abord par soi. Et nous, on est juste là pour tenir le cadre, tenir l'espace et ouais, mettre en place des canaux de transmission, des canaux de régénération. Mais c'est la personne après qui fait le taf.
Ouais, c'est ce que j'aime bien dire. Juste, on donne les clés. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. Mais d'accord, tes explications, mais bon. Et c'est vrai que le mot est fort, chaman, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Mais voilà, c'est vrai que comme tu faisais tu avais la pratique chamanique, je me suis aussi posé cette question si tu étais. Si tu te qualifies comme ça. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce podcast? Est-ce que toi, tu as d'autres choses à transmettre aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui voudraient découvrir cet univers, qui, je sais pas, peut-être appréhendent ou
Ben, j'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez votre propre rythme, parce que la question du rythme, elle est hyper importante, encore une fois, pas vouloir y aller en force, pas le faire pour faire plaisir, pas le faire parce que un tel ou un tel nous a dit de le faire. Cette notion de rythme, elle est aussi très importante, tu vois, quand je travaille en constellation, si on sent que une personne, elle n'est pas prête à faire le pardon, ou une personne, elle n'est pas prête à ouvrir tel ou tel dossier, ben en fait on n'y va pas. Et il y a un moment pour tout. Et sentez si vous avez l'appel, si vous sentez que c'est juste, que c'est le moment, allons-y. Après, il y aura toujours un peu de crainte, il y aura toujours un peu de doute, et ça c'est normal. Et moi je dis toujours la peur, elle sera toujours dans la voiture, faut juste pas lui laisser le volant.
pas mal.
Donc voilà, on aura toujours peur, il y aura toujours des craintes, des doutes, des appréhensions, ça fait partie de notre système. Mais pas lui laisser le volant et pas l'empêcher d'aller dans des espaces où on sent que ça nous permettrait de nous connecter à nous, à notre joie, à plus de tranquillité. Et puis j'aime bien aussi la question, et au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Pire, tu pleures, au pire, tu te mets en colère, au pire. Tu vas parler un peu de ta vie personnelle devant d'autres personnes. Au pire, tu vas pleurer. Au pire, voilà. Mais il y a un accompagnement pour ça. Et puis, faites-vous confiance aussi. Allez voir des gens en qui vous avez confiance. Peut-être s'il y a des personnes qui ont testé avant vous. Sentez, commencez à écouter votre corps, en fait. Voilà, ça, c'est encore une fois. On passe beaucoup par le corps dans tout ce que je fais, et écoutez votre corps. Si vous écoutez ce podcast et qu'à l'intérieur de votre corps, il y a un truc qui pétille ou qui est tranquille, qui est posé, ben, c'est que c'est un drapeau vert. Et puis si vous sentez que ça se contracte, c'est drapeau rouge. Et faites-le pour tous les thérapeutes avec qui vous avez des échanges mails, avec qui vous êtes au téléphone, avec qui vous faites une première séance. Soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps, il sait. On sait quand c'est bon pour nous.
Et c'est ce que je dis aussi dans beaucoup de podcasts, on ne nous apprend pas à écouter notre corps. Et du coup, c'est difficile, je trouve, que dans notre société actuelle, de dire qu'est-ce que je ressens là et qu'est-ce que j'ai profondément envie. Et du coup, c'est tout un travail aussi, je pense, de se reconnecter justement à cette intuition, à ce que dit notre corps, à nos mots, hein, de manière générale. Là, quel est le message caché derrière? C'est pas évident.
Non, c'est pas évident, mais c'est aussi pour ça qu'il y a autant de professeurs de yoga, de thérapeutes, que tout ça a explosé. C'est parce que l'homme et l'humain, il est en quête en ce moment de reconnexion à son être, à son corps, à ses émotions. Et c'est le début, hein. On n'arrête pas de parler de l'ère du Verseau, on en est au début. Donc voilà, acceptons aussi que parfois ça prend du temps. On a des centaines d'années de conditionnement derrière nous, de traumas, de mécanismes où on s'est complètement éloigné de notre nature intuitive et instinctive. Donc forcément, ça va aussi nous demander un petit temps à déconstruire. Mais ça peut aussi aller très vite, hein, parce que moi, à la base, j'étais pas comme ça, hein. Croyez-moi, il y a déjà eu du chemin aussi.
Ouais, donc toi tu dis que ça va aller vers ces énergies-là.
Oui, moi j'ai la croyance qu'on est tous en train de se reconnecter à notre corps, à nos émotions. Il y a une émergence de tout ce qui est autour du système nerveux, parce qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, les changements climatiques, planétaires, les guerres, on est dans une profonde mutation au niveau de la société. Donc du coup, bah, on a besoin de soutenir notre système nerveux pour arriver à traverser tout ça aussi, sinon on va exploser en vol. Et ensuite, forcément, derrière, d'aller vers une nouvelle façon de vivre, de nous reconnecter à la terre, à la nature, à la communauté, au collectif. Mais ça nous demande de déconstruire beaucoup de choses. Donc, on fait les choses par étapes et on y va tranquillement.
Génial. Eh bien, écoute, plein d'espoir que j'ai envie de terminer ce podcast sur ça. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien d'entendre ça. Je vais terminer en posant les trois questions que je pose à tous mes invités. Je suis une grande fan de lecture. Quel est le dernier livre, même si tu as dit que tu en avais beaucoup sur l'étagère, le dernier livre qui t'a le plus marqué?
Que le livre que je conseille Et c'est pas forcément celui que j'ai lu le plus récemment, mais c'est un qui m'a vraiment touchée et que j'ai envie de conseiller. C'est un livre qui s'appelle Mère de Laurent Hugelt,
OK.
qui lui fait partie des rares personnes en France avec Arnaud Rioux qu'on pourrait un peu mettre l'étiquette chamane. Mais Laurent, voilà, il me touche beaucoup par sa sincérité, son authenticité, sa légèreté, son autodérision. Je me suis formée un peu avec lui dans des pratiques chamaniques. Et en fait, son livre, c'est la transmission de la forêt amazonienne. Donc,
Magnifique.
il a canalisé les messages de la forêt amazonienne quand il y était. Et il est magnifique ce livre. Ça nous parle du cœur, de reconnecter au cœur, à l'amour, à la lumière. Enfin, c'est un très, très beau livre et vraiment, je le conseille à tout le monde.
Génial. Je sens que ça va me plaire. Je note. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement?
Une personne qui m'inspire dans mon quotidien. Une personne en particulier, je ne sais pas, je suis très inspirée par mes amis qui font plein de choses, je suis inspirée par mes proches, mon entourage. Peut-être qu'en ce moment, celle qui m'inspire le plus, c'est ma fille, parce que je passe quand même beaucoup de temps avec elle et au final, elle me ramène à l'essentiel, tu sais, elle me ramène à la présence, à en fait s'émerveiller de tout, ouais, revenir à nos besoins vitaux. Après, si je peux conseiller une amie dont j'aime beaucoup le travail, avec qui on va bientôt sortir un programme normalement autour des archétypes et des mythes, c'est mon amie Caroline Moy. Elle fait de l'astrologie et elle est passionnée et passionnante sur son sujet. Donc voilà, je pourrais peut-être citer Caroline. Ouais.
Mais on note aussi ta fille. Et c'est vrai que je pense que les enfants, ça ramène, comme tu dis, à l'essentiel. Ils ne se posent pas de questions. Et je pense que les personnes qui sont beaucoup dans le mental, comme moi, ça leur fait aussi beaucoup du bien d'avoir des petits êtres qui disent, tout va bien. En fait, là, juste profite du rayon de soleil et ça va bien se passer.
Exactement, exactement.
Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes dans ton quotidien pour te motiver, pour t'encourager, pour te sentir bien?
C'est pas vraiment pour m'encourager ou me motiver, mais c'est plus je suis en sécurité ici et maintenant. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, moi je me suis toujours beaucoup sentie en insécurité, j'étais beaucoup dans le contrôle. Et donc dans les moments où j'ai des petites vagues de stress, de prise de tête, de je pense à l'argent, de je sais pas quoi, je reviens à ça, je me dis je suis en sécurité ici et maintenant. Ça m'a aussi beaucoup aidé quand j'ai vécu les tremblements de terre à Bali, enfin voilà, il y a eu tout ça. Et ouais, c'est ce mantra-là, je pense, qui revient le plus souvent dans ma vie et qui me permet de me poser.
Non, de t'ancrer un peu. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous tes partages. C'était très inspirant. Encore une fois, merci. Je mettrai ton lien de ton Instagram et ton site internet pour les personnes qui veulent te retrouver, en savoir encore plus sur toi. Et encore une fois, merci beaucoup.
Merci à toi pour ton invitation et merci à tout le monde de nous avoir écoutés.